France Culture.
En 1835, la Grande-Bretagne a entamé une phase d'essor économique et industriel sans précédent. Sa production croît depuis 1820 à un rythme de 2% par an, un rythme qui sera d'ailleurs maintenu jusqu'en 1870, soit des niveaux qui ne seront atteints de nouveau qu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est cette année-là que naît William Stanley Jevons, témoin d'une époque où le maintien de la puissance britannique est au cœur des préoccupations, préoccupations qui deviennent siennes, car ce n'est pas tout d'être puissant, encore faut-il le rester, et la peur du déclin en politicien et économiste, Jevons décide de mener une vaste enquête statistique mais aussi théorique sur la question du charbon, fer de lance de la révolution industrielle, avec une question en tête: que se passera-t-il lorsque les ressources viendront à manquer? La question est grave, c'est de la productivité et donc de la prospérité de la nation dont il s'agit. Jevons propose alors une façon nouvelle de se saisir de la question de la finitude des ressources et va jusqu'à penser en pionnier les enjeux d'une taxe carbone qui ne porte pas encore ce nom et ceux de la dette écologique laissée aux générations suivantes. Et il ne s'arrête pas là, c'est toute une vision de l'économie politique qu'il veut renouveler, quitte à critiquer vertement les grands noms de cette science alors en pleine évolution. Et il ira jusqu'à accuser Ricardo et Mill d'avoir lancé le char de l'économie politique dans une mauvaise direction. Il faut donc proposer une nouvelle base théorique pour comprendre ce qui fonde l'offre et la demande. Et c'est une autre question, mais fondamentale elle aussi, qui apparaît: qu'est-ce qui fonde véritablement la valeur d'un bien? En répondant grâce à une approche teintée de psychologie et de mathématiques qui lui permettent de modéliser les comportements et donc les évolutions de l'offre et de la demande, Jevons s'est inscrit dans les annales de la théorie économique en précurseur, voire en révolutionnaire, et d'une révolution bien particulière, celle des marginalistes. C'est donc sur un militant, d'une certaine manière, d'une économie politique nouvelle au cœur de l'industrialisation britannique galopante que nous allons consacrer l'heure qui vient dans cette émission programmée et préparée par Paul Weinarter, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Marie-Claire Oumabadi. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir en studio deux invités. Nicolas Chaigneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du laboratoire Triangle et professeur à l'université Lumière Lyon 2, où vous enseignez, entre autres, m'avez-vous précisé, l'histoire de l'analyse économique.
Absolument.
Également avec nous, Antoine Mismer, vous êtes chargé de recherche au CNRS et membre du CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Votre ouvrage « Les économistes et la fin des énergies fossiles 1865-1931 » apparu chez Classique Garnier en 2017, et vous nous aviez déjà aidé à revenir sur le parcours d'un autre éminent économiste en février dernier. Il s'agissait d'Harold Oetterling. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Et merci de nous prêter à nouveau main forte et de vous prêter à cet exercice. Je précise par ailleurs que l'ouvrage que je viens de citer est issu de votre travail de thèse, dont Nicolas Chaigneau, ici présent, fut le directeur. Voilà pour les liens qui vous unissent. Antoine Mismer, nous avons été confrontés avec Paul Weinarter, qui a non seulement préparé cette émission, mais qui a aussi tenu à la consacrer à Jevons précisément. Nous avons été confrontés donc à une forme de perplexité. Nous nous sommes rendus compte qu'il existait en quelque sorte deux Jevons, d'un côté l'homme qui a pensé donc en pionnier une forme de fiscalité écologique et la question de l'épuisement des ressources, qui est l'aspect que vous avez, vous, le plus étudié, et de l'autre on a un Jevons peut-être plus connu, celui qui est souvent présenté comme l'élément déclencheur de la révolution marginaliste. Quelle cohérence, quelle continuité peut-on établir entre ces deux Jevons, entre guillemets? Quelle était l'ambition intellectuelle du personnage?
Alors, c'est une question difficile parce que par rapport à d'autres auteurs où on peut essayer de reconstruire ex post en effet une cohérence de façon assez homogène, avec Jevons, il y a un peu ce mystère de cet ouvrage sur le charbon qui est un peu dissonant par rapport au reste de son œuvre. Vous l'avez dit en introduction, c'est un auteur typique de l'Angleterre victorienne de cette époque-là, qui s'intéresse aux arts, qui s'intéresse aux sciences et qui finalement craint beaucoup que cet apogée de la civilisation victorienne arrive à un terme. Son œuvre économique, en fait, sa cohérence, on la trouve du côté d'une attention portée à la logique et à une refondation de l'analyse économique sur les bases marginalistes, comme vous l'avez dit, et ce qu'on discutera plus tard dans l'émission. Et cet ouvrage sur le charbon est un peu hors norme par rapport à ça, parce que c'est un ouvrage très empirique, qui adopte une méthodologie différente, qui porte sur un sujet sur lequel il ne reviendra pas tant que cela par la suite. Et quand on s'intéresse au parcours de Jevons, ben, l'une des explications qui a pu être donnée, c'est que quand il décide de s'attaquer à ce sujet, 1864-1865, il a beaucoup d'ambition universitaire. Il a déjà posé les jalons de sa théorie de l'économie politique, mais il n'a pas reçu l'écho qu'il aurait aimé avoir. Et donc, c'est un peu aussi par stratégie de dire, je vais me mettre à écrire sur un sujet plus connu, plus populaire, pour me faire connaître et qui me servira peut-être de tremplin.
Donc c'est une forme de parenthèse presque opportuniste, on pourrait le signifier ainsi. Nicolas Chaigneau, on a une première piste qui commence avec la réponse d'Antoine Mismer, cette idée qu'il y a aussi la volonté très forte chez Jevons de fonder une nouvelle économie politique, ou en tout cas de renouveler l'approche de l'économie politique. Est-ce que c'est ça qui pourrait potentiellement servir de fil rouge ?
Bon, c'est toujours une question d'interprétation rétrospective, mais on a quand même des bases assez solides, hein, à la fois la correspondance que Jevons entretient avec sa famille pendant qu'il est en Australie. On y reviendra peut-être sur cet épisode australien plus tard, mais où on voit progressivement naître un certain nombre de convictions qui vont s'ancrer profondément chez Jevons, et notamment, on en parle encore récemment avec Antoine, vraiment le désir de contribuer à la connaissance commune, au bien commun, à travers de la production de connaissances. Ouais. Il a plusieurs lettres où il indique vouloir vraiment être animé par cette volonté de construire notamment une théorie de l'homme et de la société qui aide à comprendre, en fait, tout simplement, les phénomènes sociaux qui nous entourent. Donc il y a vraiment cette détermination. Et c'est vrai, quand il revient d'Australie, on sent qu'il a cette volonté de s'imposer, hein, dans le milieu académique, en contribuant de manière significative... dans le champ des sciences sociales, on va dire comme ça. Alors, il fait le choix de l'économie politique, c'est peut-être un peu prématuré à ce moment de notre échange pour en parler, on y reviendra sans doute, mais il fait le choix de l'économie politique, et c'est vrai que ce à quoi faisait référence Antoine tout à l'heure, il rédige un petit texte en 1862, oui, qu'il soumet à un colloque de l'Association annuelle des sciences, la grande association où les scientifiques anglais de l'époque présentaient leurs travaux. Et ce petit texte s'appelle s'appelle une note pour une théorie générale mathématique de l'économie. Et on y trouve absolument l'architecture globale de ce que sera son raisonnement en 1871, dans l'ouvrage que vous avez évoqué en introduction, qui contribuera à les révolutions marginalistes. Donc, ça accrédite ce que disait Antoine sur le fait que le travail sur la question du charbon est une parenthèse. Alors, une parenthèse, certes, très productive en connaissance, mais ça, c'est à Antoine d'en parler, il est bien plus compétent que moi, infiniment plus compétent que moi sur ce sujet. Mais voilà, je pense que on peut l'interpréter comme ça, parce que pour terminer là-dessus, sans être trop long, entre 1860 et jusqu'à la publication de son ouvrage de 1871, on sent vraiment son désir constant de s'imposer comme une figure intellectuelle reconnue dans le champ académique anglais de l'époque.
Nicolas Chaigneau, j'ai une autre question pour vous qui va probablement amener aussi une réponse potentiellement très longue, mais parce que j'ai beaucoup employé le mot de pionnier dans cette introduction, qui est assez facilement galvaudé, il faut bien le dire. Dans quelle mesure on peut dire qu'effectivement, Jevons se posant en pionnier, parce qu'Antoine Mismer nous l'a dit, c'est finalement un raisonnement d'économiste assez classique, on va dire, pour l'époque victorienne. Est-ce que Jevons fait vraiment figure de pionnier, je vous pose la question, notamment en lien avec la révolution marginaliste sur laquelle on va revenir, mais il se situe quand même dans une forme de continuité. Est-ce qu'il fait au moins preuve d'originalité ?
Alors, en fait, peut-être que je ne devrais pas commencer par ça, mais c'est une question difficile. La réponse est complexe. Alors, ce n'est pas tant qu'elle est complexe, mais elle est encore largement débattue en fait, parmi les historiens de la pensée. Il n'y a pas forcément consensus là-dessus. Je vais essayer de le dire de manière la plus synthétique possible. Jevons est pionnier au sens où il arrive à rassembler dans un ensemble théorique cohérent et assez approfondi un certain nombre d'éléments dont on ne peut pas effectivement prétendre qu'il les a tous inventés. Bon, prends un exemple, parce que je pense qu'on en parlera au cours de cette émission, la fameuse loi de l'utilité marginale, qui désigne simplement une idée relativement simple, hein, c'est je consomme un bien, ça me procure la satisfaction. Que se passe-t-il en termes d'augmentation de satisfaction lorsque je consomme une unité supplémentaire de ce bien ? Bon, il se trouve que ce matin, avant de venir à l'émission pour vous rencontrer, j'ai bu deux cafés. Ça m'a apporté un certain niveau total de satisfaction. Que se passerait-il en termes d'accroissement de mon utilité si je consommais une troisième unité de café ? Bon, ça, l'utilité marginale désigne une augmentation supplémentaire de ma satisfaction. Bon. Cette notion-là, bon, je crois qu'on en discutera, est au cœur de la révolution marginaliste, mais on ne peut pas sérieusement prétendre que Jevons l'a inventée toute pièce.
Personne n'y avait pensé avant.
Bon, on la trouve chez un certain nombre de précurseurs. Du reste, il en découvrira l'existence de ces précurseurs, à son grand désarroi, entre la publication de la première édition de la théorie de l'économie politique, 1871, et la publication de la deuxième.
Bon. Ce qui conduit à modifier la préface, je crois, d'ailleurs.
Et, absolument, il modifie la
dommage.
Préface.
Voilà, Nicolas Chaigneau, pour rentrer sur des questions plus précises et pour comprendre le cheminement intellectuel et son parcours biographique aussi, il faut commencer par le commencement. William Stanley Jevons est né en 1835, je le disais. Il est le neuvième enfant d'une famille relativement aisée, de marchands de fer. Il suit dans un premier temps des études au Liverpool Mechanics Institute, puis à l'école préparatoire de l'University College de Londres, où lui sont enseignées les mathématiques et la chimie. On va le voir, ça a une certaine importance aussi dans sa construction intellectuelle. Mais tout cela ne dure pas, Nicolas Chaigneau. Et là, on en vient à ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce passage par l'Australie. Pour quelles raisons part-il là-bas et qu'est-ce qu'il y découvre ?
Alors, il est parti là-bas pour un certain nombre de raisons. On peut au moins en identifier une, un peu objectivement. C'est qu'il se trouve que donc il est le fils, alors un des derniers d'une grande fratrie, bon, qui a un destin un peu tragique parce que je crois que la moitié meurt à l'âge de l'enfance. Son père a hérité d'une entreprise métallurgique qui était très florissante, mais qui malheureusement est emportée par le chaos de l'effondrement de l'économie des chemins de fer en 1847, qui a touché fortement l'Angleterre, mais aussi la France. Hein. Il y a des liens avec l'histoire de la commune, mais c'est pas le sujet de l'émission. Et donc, il se retrouve, au moment où il vient d'être l'équivalent de bachelier, il se retrouve à avoir cette proposition de partir en Australie avec une belle paye à la clé, en fait. Hein. Il doit être essayeur de métaux à l'Hôtel des Monnaies de Sydney, suite à un afflux d'or en Australie. Et de ce que j'ai pu apprendre, mais d'autres collègues ont pu travailler aussi sur cette question, son père quand même l'incite fortement à accepter ce poste, parce que ça le permettra de subvenir aux besoins de ses deux sœurs qui sont célibataires et un de ses frères qui sont restés en Angleterre. Et il y part, en faisant un crochet par Paris à l'occasion, mais ça sera quelque chose qui sera extrêmement enrichissant pour son parcours intellectuel. Il va s'intéresser à beaucoup de champs disciplinaires et c'est là que va naître son intérêt pour l'économie politique.
C'est de là que naît son intérêt pour l'économie politique, notamment grâce à un certain nombre de lectures aussi alors qu'il est en Australie. Il y a une autre question qui le taraude, en tout cas qui l'intéresse lorsqu'il est en Australie, c'est la question des chemins de fer. Là, on peut faire un lien direct avec l'élément biographique que vous venez de nous livrer. Comment il se saisit de cette question-là ? On comprend l'origine de l'intérêt peut-être, mais qu'est-ce qui le fascine, qu'est-ce qui l'intéresse fondamentalement dans cette économie des chemins de fer ?
Alors, c'est une succession de questions où il y a quand même pas mal de points d'interrogation dans les réponses que je pourrais apporter, mais qui s'intéresse ? Alors, le sujet auquel il s'intéresse très précisément, c'est la création d'une ligne de chemin de fer dans les années 1856-57 en Nouvelle-Galles du Sud. Passons les bourgades qui étaient concernées, je pense que c'est pas essentiel pour le propos, mais il s'intéresse là-dessus, mais à travers des lectures d'articles de presse. Hein. Bon. Alors l'intérêt est sans doute lié en partie à l'histoire familiale, hein, qui était fortement marquée par cette histoire de l'économie ferroviaire. Je peux malheureusement pas vous en dire plus. Cela étant, le point important, me semble-t-il, c'est que c'est ce sujet qui va le pousser à lire un certain nombre d'économistes dont il n'avait pas jusqu'à présent connaissance, du moins à travers les textes. Donc c'est tout simplement Adam Smith, c'est David Ricardo, c'est John Stuart Mill, donc des grands économistes classiques du 19e siècle, par lesquels il fallait de toute façon impérativement passer si on voulait avoir quelques prétentions que ce soit à faire de l'économie politique. L'économie politique anglaise au 19e siècle était classique, c'est un terme qui désigne l'économie de Smith, Ricardo et Mill, où elle n'était pas, quasiment.
C'est une très bonne transition, parce qu'effectivement, des ambitions, Jevons en a aussi, en termes d'insertion dans ce champ disciplinaire qu'est l'économie politique. En 1859, il est de retour en Grande-Bretagne, il reprend des études de mathématiques et d'économie politique à l'University College de Londres, où il obtient un Master of Arts. En 1863, il a alors 28 ans, il devient tuteur dans l'Owens College à Manchester, où d'ailleurs Richard Cobden a lui-même enseigné, et je revois nos auditeurs à l'émission d'hier que nous avons consacrée entre autres à Richard Cobden. Et 3 ans plus tard, Jevons est nommé professeur d'économie politique et professeur de logique et de philosophie morale. C'est une période, Antoine Mismer, où il se tourne vraiment vers l'économie politique. On a beaucoup mentionné cette discipline. Concrètement, à cette époque-là, de quoi est-elle constituée ? Quelle est son ambition aussi à cette économie politique ?
Alors, l'économie politique dans les années 1850-1860, elle est encore beaucoup marquée par l'école classique. Le grand auteur, il a été cité par Nicolas Chaigneau, c'est John Stuart Mill, dont les principes d'économie politique datent de 1848, la première édition, mais qui connaissent un très grand succès. Et l'ambition de l'économie politique classique, ça reste d'expliquer la production, la distribution, la consommation des richesses, et puis sa distribution entre différentes classes sociales, où on a donc une vision qui est à la fois sur les comportements économiques, bien sûr, comment un capitaliste, un travailleur, sur un marché donné, peut se comporter, mais en réalité, il y a la dimension collective, sociale, est très importante. Ce qui est important, c'est le partage de la valeur au niveau collectif, etc. On n'est pas encore sur ce qui deviendra, d'ailleurs, avec le marginalisme très important, une théorie mathématique du comportement individuel ou une théorie de l'échange à un niveau microéconomique. C'est une théorie un peu générale de la société qui porte avant tout sur les richesses.
D'où le côté politique, sans doute, aussi, de son appellation. Pour bien comprendre la place qu'occupe Jevons dans ce paysage intellectuel dont vous venez de nous dresser le décor, Antoine Mismer, vous précisez, Nicolas Chéniaud, qu'en 1962, lors d'une allocution devant la British Association for the Advancement of Science, Jevons pose les bases de sa vision théorique. On l'a dit, ce qui suivra plus tard est une forme de parenthèse en 1865, mais en 1862, déjà, il pose ces bases-là qui sont très importantes. Et alors là, je vais lâcher des mots qui peuvent impressionner, mais que vous allez nous expliquer, Nicolas Chéniaud. Il essaye de montrer comment il cherche à comprendre les motifs des actions des individus fondées sur la recherche du plaisir et l'évitement des peines. Alors, il ne s'agit pas d'une nouveauté en soi, on va sans doute y revenir, puisque d'autres l'avaient fait, notamment chez les utilitaristes en Angleterre. Mais cette réflexion-là, pour lui, doit se situer au fondement de cette théorie qu'il va développer. Donc, dès 1862, il veut impulser un changement pour cette discipline. Pourquoi, Nicolas Chéniaud, est-ce qu'il y a des insuffisances pour lui vis-à-vis de l'économie politique ?
Alors, lorsqu'il écrit ce court texte en 1862, alors, petite précision, en fait, à ma connaissance, il ne le lit pas même en présence au cours de ce colloque, parce que il n'est pas accepté pour le lire, c'est quelqu'un qui le lit à sa place. Et du reste, ensuite, il y avait tout un processus d'acceptation, de validation scientifique, avec tous les guillemets qui s'imposent du texte, et il n'est pas véritablement validé par l'association, il attendra 1866 pour le publier de sa propre initiative dans une revue. Donc, ça a déjà été parenthèse, mais c'est relié à des questions qu'on a déjà abordées. Ça a été à l'origine une grande frustration pour lui, un sentiment d'échec. Alors, peut-être pour répondre à votre question, il faut que je prenne quand même 3-4 minutes, si vous me les accordez. Au moment où Jevons écrit ce texte, le contexte, c'est celui qu'a décrit Antoine Mismer tout à l'heure, c'est une économie politique classique prédominante, qui, sur un sujet très précis, a une réponse extrêmement précise. Le sujet, c'est qu'est-ce qui détermine la valeur d'échange des biens ? De quoi dépendent les prix des biens ? Alors, parenthèse aussi là-dessus, on peut penser que c'est une question éminemment technique, mais en réalité, elle traverse tout le 19e siècle en économie politique, pour une raison bien simple, c'est que Smith nous a bien appris qu'avec la division du travail, chacun se spécialisant dans une tâche particulière, nous devenons toutes et tous totalement dépendants des autres pour satisfaire nos besoins, de sorte que la société devient commerçante et chacun et chacune devient un marchand. Et donc la question de la valeur d'échange devient une question centrale, au sens où c'est celle qui incarne, qui cristallise la question du lien social entre les individus sur le marché. Bon. Et à cette question de savoir qu'est-ce qui détermine la valeur d'échange, les classiques, alors Smith le disait, Ricardo le disait, Mill aussi, même Marx, alors avec des variantes, bien sûr, des variantes importantes, tous ont à peu près la même réponse. La valeur d'échange d'un bien dépend, pour simplifier, de la quantité de travail qu'il faut pour le produire. Bon. Alors, et ça, cette thèse n'est absolument pas contestée au moment où Jevons prend son envol intellectuel, ou du moins commence à abattre timidement des ailes. Bien. Alors, cette théorie, elle est acceptée, mais elle pose un certain nombre de questions, et une parmi ces questions est la suivante, c'est que les classiques n'arrivent pas véritablement à faire un lien entre cette théorie et les lois de l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on dit d'un côté, le prix d'un bien dépend de la quantité de travail pour le produire, il n'y a pas de débat là-dessus, mais ils n'arrivent pas à faire un lien de cause à effet entre cette proposition et l'idée que quand le prix d'un bien augmente, on voit que quand même que la demande diminue et que quand le prix d'un bien baisse, on voit quand même que la demande augmente. Bon. Et ça, je pense que c'est un vrai motif d'insatisfaction de la part de Jevons. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Après, je peux vous répondre sur qu'est-ce qu'il met en avant pour aller plus loin et ce qu'il pense pouvoir corriger ce problème.
Alors, on va y arriver, mais c'est une partie qu'il développe aussi un peu après 1862.
Absolument.
Et sur laquelle il va largement revenir dans une seconde partie de sa vie également. Avant cela, Nicolas Chaigneau, j'ai une dernière question pour vous. Pour vous, j'ai pu lire que cette communication de 1862, donc il ne fait pas, si j'ai bien compris, directement à la British Association, fut l'occasion aussi de présenter pour Jevons ses travaux un peu en deux parties, en tout cas de poser aussi des bases très méthodologiques sur lesquelles il faut revenir. Il y a les travaux, on va dire, qui relèvent de l'induction et qui concernent en particulier l'étude des fluctuations et ceux qui font appel à la déduction, que ce soit en économie ou en logique. Donc c'est aussi une façon pour Jevons de poser aussi des bases méthodologiques et de s'affirmer aussi en tant que penseur et en tant qu'économiste de ce point de vue-là.
Alors sur la base inductive, peut-être que si il en est d'accord, Antoine pourra dire deux mots, mais sur la partie, dans ce petit texte, sur la partie proprement déductive, pour reprendre votre terme, tout à fait approprié du reste, Jevons dit deux choses. Il dit, si on veut aller au fondement de l'économie politique, il faut comprendre les comportements individuels. Et ma conviction, dit Jevons, c'est que les comportements individuels peuvent être ramenés à un seul et unique mobile. Ce mobile, il est que dans chacun de nos actes quotidiens, nous recherchons le plaisir et nous évitons la peine. De sorte que, pour résumer, Jevons va nous dire, l'économie politique doit trouver ses fondements dans un calcul des peines et des plaisirs. Donc c'est l'arrière-fond utilitariste que vous avez évoqué, ou ce qu'on appelle aussi plus communément l'hédonisme psychologique. Cette idée que le principal mobile de nos actions, c'est la recherche du plaisir et l'évitement de la peine. Donc si je suis venu participer à cette émission, c'est parce que je cherchais à maximiser mon plaisir et à éviter de la peine. D'ailleurs, le reste, je n'en ai ressenti aucune jusqu'à présent. Bon, et ça, c'est le premier accent. La deuxième chose, si je peux me permettre de continuer un peu, c'est que cette thèse, elle a un avantage important pour lui, c'est qu'elle permet de rattraper une autre de ses passions qui sont les mathématiques. Il a une formation mathématique extrêmement solide. Du reste, avant de quitter l'Australie, lorsqu'il fait ses études secondaires, il a un excellent professeur de mathématiques, qui est Augustus de Morgan, qui est un fameux mathématicien de l'époque. Il a même des médailles d'or en mathématiques. Alors, je crois qu'il est que quatrième, mais bon, il y avait quatre médailles d'or, je suppose. Et donc, il a de bons résultats. Et l'avantage du calcul des peines et des plaisirs, c'est que dans cette expression, il y a le mot calcul. Et que donc, et c'est sa deuxième proposition, puisque l'économie doit se fonder sur un calcul de nos comportements de recherche de plaisir et d'évitement de la peine, je peux utiliser l'instrument mathématique parce que tout ça se traduit en termes de maximum. C'est-à-dire, les individus vont chercher le plus et le moins en permanence. Et ça fait l'objet d'un traitement mathématique assez facilement.
Et ça lui permet aussi de préciser que peine et plaisir sont des quantités. En fait,
absolument, vous avez parfaitement raison de le préciser.
Dans cette modélisation-là. Et puis, Antoine Mismer, nous en arrivons à la question du charbon, cette fameuse parenthèse de 1865, même si vous l'avez dit, les travaux, enfin, sa réflexion sur la question commence en 1864. Alors le contexte est très important, on l'a dit, c'est l'Angleterre victorienne, ce sont les débuts, voire déjà l'ancrage d'une forme de révolution industrielle. Pour bien comprendre tout de même ce qui se passe et ce qui pousse un penseur comme Jevons à se pencher sur cette question du charbon, il faut quand même bien comprendre ce qui caractérise cette prospérité économique britannique. Pourquoi Jevons se dit c'est le charbon qui va m'intéresser plus que toute autre ressource ou tout autre aspect économique qui pourrait favoriser aussi la révolution industrielle?
Alors, l'une des raisons pour laquelle il s'intéresse au sujet, on le disait tout à l'heure, c'est parce que c'est un sujet qui est débattu et il veut faire sa contribution à ce débat-là. En fait, la scène, elle est occupée beaucoup par des géologues ou des ingénieurs qui alertent déjà sur le fait que les réserves de charbon de qualité et bon marché viennent à s'épuiser progressivement. Ces réserves, elles sont essentielles parce que l'Angleterre a construit sa puissance industrielle sur l'exploitation de ce charbon, qui n'est pas n'importe quel charbon, qui est un charbon extrait du sous-sol anglais. Donc c'est une ressource domestique. Et ça, c'est ce qui crée aussi un écho avec les débats énergétiques contemporains qu'on peut avoir, c'est-à-dire la question de la souveraineté énergétique est un enjeu important. Quelles ressources énergétiques on utilise viennent-elles de notre sol ou sont-elles importées? Et le discours que va tenir Jevons parmi d'autres, c'est de dire l'enjeu n'est pas tant que ces ressources vont disparaître dans l'absolu, c'est-à-dire il y a plein d'autres endroits à travers le monde où il y a du charbon, et même dans le sous-sol anglais, on peut trouver du charbon de moins bonne qualité que l'anthracite gallois, qui est vraiment le summum de ce qu'on utilise à l'époque. Mais la difficulté, c'est que si on se met à importer le charbon, on va créer beaucoup de déséquilibres, qu'aujourd'hui on qualifierait de macroéconomiques. Donc on va créer une hausse des coûts de production pour l'industrie. On va aussi perdre la capacité d'exporter ce charbon. Et donc, quand on exportait ce charbon, on arrivait à faire rentrer des capitaux où on pouvait acheter des biens manufacturés, etc., ou des denrées agricoles. Jevons insiste beaucoup sur le fait que finalement, on importe beaucoup de grains de l'étranger grâce aux exportations de charbon. Et donc, c'est tous les équilibres agricoles, industriels qui s'en verraient touchés.
D'où l'idée que c'est toute la prospérité économique de l'Angleterre qui peut être impactée à ce moment-là.
Ça va même presque au-delà de l'économie, d'ailleurs, parce que c'est presque un risque de crise civilisationnelle. Il faut bien imaginer qu'on est dans les années 1850-1860. Donc, l'Angleterre victorienne, c'est pas seulement une puissance économique très forte, avec une grande part de la production industrielle mondiale, c'est aussi les œuvres des Sœurs Brontë, de Dickens, c'est l'origine des espèces de Darwin en 1859, c'est l'exposition universelle de 1851, c'est vraiment un lieu essentiel aussi des arts et de la culture, et dans son imaginaire, si vous cassez la prospérité, vous allez casser aussi toute l'œuvre intellectuelle ou scientifique qu'il y a derrière.
Donc ce qu'on comprend à travers vos propos, Antoine Mismer, c'est que le charbon est la clé de voûte de tout l'ensemble. Il y a à la fois les questions évidemment de production industrielle, mais donc aussi de production et de fait d'exportation des biens manufacturés. Il y a aussi la question démographique qui est au fondement aussi de la prospérité britannique. Tout est lié à travers cette question du charbon. Une question se pose, si le charbon est si important que ça, et s'il est si stratégique, pourquoi il n'y a que Jevons qui s'empare de cette question? Est-ce le cas?
Alors, comme je le disais, si on regarde en dehors de l'économie politique, il y a beaucoup de géologues. Et d'ailleurs, Jevons, dans le début de son ouvrage sur le charbon de 1865, consacre un temps à parler des débats qui existent en géologie ou ailleurs. Si on regarde plus précisément dans l'économie politique, il n'est pas tout à fait le premier. C'est-à-dire que chez des classiques un peu avant lui, comme McCulloch, Senior, etc., qui sont des classiques de seconde génération, le charbon apparaît. Il y a quelques ouvrages sur le charbon, mais souvent avec un discours qui tend plutôt à rejeter les craintes, en disant, vous allez voir, avec le progrès technique, avec les capacités d'importation qu'on pourrait avoir de certains minerais, il n'y a pas de crainte absolue à avoir sur le charbon. Et ce que va faire Jevons, c'est prendre plutôt le parti pris de l'alerte sur la fin des ressources, mais en ayant un angle économique. Donc il se distingue des géologues par la spécificité économique et il se distingue de ses collègues économistes par le côté alerte sérieuse.
Une alerte sérieuse, et effectivement on va rentrer dans le détail de la façon dont il se distingue d'un simple, et je mets là plein de guillemets, d'un simple travail de géologue et quel apport économique il formule vis-à-vis de cette question. Une autre parenthèse, Nicolas Chéniaud, avant de rentrer dans ce détail-là, on l'a compris, c'est un enjeu de la prospérité de la nation qui est sur la table. Est-ce que Jevons se lance dans cette aventure-là spontanément? Dans quelle mesure est-ce une commande ou dans quelle mesure il se dit « je vais le faire pour aider la nation à avancer et échapper au déclin » Est-ce qu'on a cette information-là? Parce que je trouve ça intéressant.
Je ne saurais dire, franchement.
Antoine Mismer, vous le savez? Si c'est spontané ou si c'est une forme de commande?
Je ne crois pas qu'il y ait de commande. C'est-à-dire que quand on lit la correspondance, Nicolas Chéniaud a évoqué tout à l'heure, qu'on dispose, d'ailleurs grâce au travail de Collinson Black dans les années 70 et 80, qui a publié beaucoup de correspondances, de matériaux d'archives de Jevons, on a la correspondance avec sa famille, et lui ne dit pas qu'il répond à une commande, il dit simplement qu'il voit en lisant la presse que c'est un débat qui prend de plus en plus de place, et il veut y apporter une contribution.
Si je peux préciser, c'est que c'est du reste ce qu'il fait déjà pendant son séjour en Australie. Il y a des ouvrages qui n'ont pas été publiés, qu'on a redécouverts bien plus tard. Il y a un ouvrage sur une théorie de la musique. Il y a aussi le début d'un ouvrage sur l'anthropologie. À partir du moment où il est en Australie jusqu'à son retour, il a pas mal de chantiers sur la table, en fait, en quelque sorte. Qui se lance un peu tout azimut dans pas mal de directions. Ça aboutit, alors je dis pas que la question charbonnière est le résultat d'une procédure d'essai et d'erreur pour finir par trouver quelque chose à dire sur quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui, pendant toute sa carrière intellectuelle, s'est en permanence intéressé en parallèle à des questions qui, en apparence, n'avaient aucun lien les unes entre les autres. Il a publié en 1874 un ouvrage, peut-être finalement celui qu'il aurait souhaité voir le plus reconnu, hein, c'est les Principles of Science, qui est un ouvrage d'épistémologie. Il a publié un peu plus tard, posthume, il y a des travaux sur des questions de réforme sociale, mais il a fait des articles sur la mortalité infantile, sur le travail des femmes dans les usines, sur la législation sur les débits de boissons, sur les loisirs culturels qu'il fallait proposer aux classes populaires, et tout ça parallèlement à la trajectoire que vous avez restituée, qui va de The Cold Question à la révolution marginaliste. Donc c'est assez difficile face à un personnage qui est l'objet d'un tel bouillonnement intellectuel d'arriver à isoler un objet en se disant voilà, c'était une commande où il y avait une finalité qu'on peut résumer à une méthodologie ou une intention particulière.
Antoine Wismer, je reviens donc à la question du charbon pour qu'on comprenne bien ce dont il s'agit, parce qu'on a parlé de finitude des ressources, d'inquiétude vis-à-vis des stocks disponibles. Je voudrais insister sur ce point-là. Dans quelle mesure s'agit-il, parce qu'on pourrait à l'aune de 2025 se dire qu'il s'agit d'une préoccupation pionnière en termes, on va dire, de préoccupation environnementale. On le comprend aussi dans ce que vous avez commencé à nous expliquer. On a presque l'impression qu'il s'agit plus d'une préoccupation inflationniste. On a aussi cette idée que l'épuisement des ressources va provoquer une hausse des prix pour tout le monde qui va se répercuter sur toute la chaîne de production et donc pour l'économie britannique dans son ensemble. Qu'est-ce qui préoccupe vraiment Jevons ? Est-ce que c'est cette crainte de l'inflation généralisée, de la hausse des prix de tous les biens qui sont dépendants du charbon ?
C'est tout à fait juste que ce qui ne le préoccupe pas, en tout cas, c'est la disparition d'un patrimoine naturel ou le fait qu'on perde des ressources naturelles pour des raisons environnementales. Il y a une crainte chez lui que ces ressources qui sont épuisables pourraient poser un problème de justice intergénérationnelle, ça c'est vrai, mais son angle premier, c'est vraiment la question de la compétitivité économique, ce dont on parlait à l'instant. Donc, la façon dont vous le formulez, de dire c'est une crise inflationniste généralisée, en fait, est assez illustrative parce qu'il y a un moment, un chapitre de son ouvrage où il discute par exemple la question de la fiscalité qu'on pourrait mettre en place sur le charbon pour éviter son épuisement. Et on pourrait s'attendre aujourd'hui, quand on parle de fiscalité environnementale, dire ben, on va mettre des taxes sur certaines ressources pour éviter qu'elles soient gaspillées. Et ce que dit Jevons, c'est que ce genre de dispositif n'est pas forcément souhaitable parce que ça va être un dispositif inflationniste général, de la même façon que l'épuisement des ressources. Et donc là, on voit bien avec cette illustration, et c'est aussi ce qui fait que, sur ce point-là, il a peut-être moins d'actualité que ce qu'on veut lui faire dire parfois, sur ce point-là. C'est ce qui explique que vraiment, son enjeu essentiel, c'est des questions de compétitivité.
Et c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus forcément uniquement la compétitivité ou la prospérité des nations qui est en jeu, mais effectivement cet enjeu de transition écologique de façon plus générale. Vous avez commencé, Antoine Wismer, a évoqué le fait que Jevons ne se contente pas de faire des constats ou en tout cas d'alerter sur le déclin potentiel des ressources. Il va plus loin, il va tenter de proposer des solutions, dont celle de la fiscalité, vous l'avez dit. Et une première pourrait être tout simplement de moins consommer cette ressource, et notamment grâce à des machines nouvelles qui seraient moins gourmandes en charbon. C'est ce que Jevons pensait de cette stratégie qu'il explique dans un discours donné à la Royal Society le 13 mars 1868.
Réaliser des économies de combustible ne tend pas à réduire la consommation industrielle de charbon, mais agit dans la direction opposée. En accroissant la profitabilité, ces économies en accroissent les usages. Presque toutes les améliorations réalisées depuis un siècle et demi dans les machines ont été orientées vers une plus grande efficacité dans la consommation de charbon. Et pourtant, l'usage de ces machines et les quantités consommées de charbon ont augmenté. Il est tout à fait irrationnel de croire qu'à l'avenir, les choses pourraient être différentes.
Une lecture d'Anouk Miliaud de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. D'une certaine manière, on l'entend, Antoine Wismer, Jevons est contre le techno-solutionnisme. Comment le justifie-t-il d'un point de vue théorique ? Qu'est-ce qui ne convient pas finalement avec cette idée de machine qui consommerait moins de charbon ?
Alors l'extrait qui est présenté ici est une réponse donnée à celles et ceux, à ces contradicteurs en fait, qui entre la première et la deuxième édition, 1865 et 1866, lui disent bah, finalement le progrès technique peut permettre d'éviter l'épuisement du charbon puisqu'on améliore constamment les machines à vapeur. Et Jevons répond qu'en examinant les chiffres, et c'est là qu'on voit une dimension un peu inductive aussi dans sa démarche, il part par des données, fait un gros travail sur les données, il explique qu'on a beau améliorer les machines à vapeur, on consomme toujours plus de charbon. Et cette idée-là, qui va être en fait formulée plus tard sous le terme d'effet rebond, C'est quelque chose qui est encore beaucoup utilisé dans la littérature académique aujourd'hui et qui est vraiment la contribution principale de Jevons dans cet ouvrage, puisque c'est une réponse apportée à ceux qui pensent que le progrès technique peut résoudre à lui seul les problèmes de ressources. Pour dire rapidement de quoi il s'agit, peut-être juste un exemple pour...
C'est ce que j'allais vous demander,
voilà, pour illustrer. L'effet rebond, il est présent dans beaucoup de domaines aujourd'hui. Pourquoi on en parle encore? Alors, l'un des exemples les plus courants qu'on donne, c'est l'exemple des véhicules, par exemple. Si je reprends les chiffres qui ont été publiés par l'ADEME, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est beaucoup critiqué ces temps-ci, mais qui fait un travail tout à fait remarquable. En 1995, les véhicules à essence, c'était une consommation moyenne d'environ 7,5 litres au 100. En 2023, donc 30 ans plus tard, selon les chiffres qui sont mesurés, la consommation moyenne d'un véhicule à essence, c'est 7,3 litres. Litres au 100. C'est-à-dire quasiment la même chose, alors que, bien évidemment, les progrès sur les moteurs thermiques ont été très très importants. Un moteur en lui-même, à puissance équivalente, consomme moins aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Sauf qu'on s'est servi de ce progrès technique non pas pour faire baisser les consommations de carburant, mais on s'en est servi pour accroître la taille des véhicules, le poids des véhicules, leur équipement. Sans compter le fait qu'il y a aujourd'hui plus de véhicules en circulation qu'il n'y en avait il y a 30 ans, le résultat, c'est que la consommation totale d'essence en France n'a pas baissé depuis 30 ans. Ça, c'est typiquement un effet rebond.
Et de la même façon, Antoine Mismer, est-ce la raison pour laquelle Jevons n'envisage pas forcément d'autres substituts en termes d'énergie que le charbon? On pourrait penser, bon, à l'époque, les panneaux solaires, ça devait être un peu compliqué, mais en tout cas, l'énergie solaire d'une certaine manière, est-ce que ces substituts-là ne trouvent pas non plus grâce aux yeux de Jevons?
Alors, il envisage dans un chapitre plusieurs substituts, d'autres types d'énergie. Et là, il fait face, en fait, à la situation telle qu'elle est à son époque, aux données qu'il a en visibilité, avec le résultat suivant de dire ben, il y a d'autres sources d'énergie qui existent, mais ces autres sources d'énergie n'ont pas la même puissance calorifique, ou en tout cas n'ont pas les mêmes rendements, et donc ne sont pas de bons substituts au charbon. Et il dit... Bien sûr, il y a une solution qui pourrait paraître résoudre le problème, c'est l'énergie du soleil, parce que l'énergie du soleil, elle paraît illimitée. On sait qu'elle a des potentiels importants, même s'il y a des problèmes de concentration, mais on pourrait imaginer une technologie qui puisse permettre d'exploiter cette énergie. Sauf que Jevons boucle son raisonnement, qui, je vous le rappelle, porte avant tout sur la compétitivité de la Grande-Bretagne. Et donc là, il finit ce chapitre sous une forme de demi-boutade, mais en disant « un monde entièrement solaire, il n'est pas certain que l'Angleterre soit le pays le mieux doté ».
Ce qui est géographiquement, météorologiquement aussi, est sans doute fondé. On pourrait tout de même se dire que l'histoire ne lui a pas forcément donné raison avec les hydrocarbures, entre autres, et puis l'énergie nucléaire. Mais on imagine que ça devait être compliqué à concevoir, peut-être aussi, de son point de vue et vu l'époque qui est concernée. Je voudrais vous faire écouter une autre partie de la pensée aussi de Jevons. On a parlé du problème, des solutions. Et Jevons va aussi plus loin, d'une certaine manière. Alors, on pourrait se dire que c'est un point de vue un peu défaitiste, dans le sens où on a un peu l'impression qu'il abandonne l'idée de trouver des solutions très concrètes et qui va se contenter de limiter les dégâts, de limiter les conséquences aussi de cet épuisement des ressources. C'est ce qu'il explique notamment dans un discours prononcé au Carpenters Hall de Manchester le 16 janvier 1867.
La meilleure façon de nous préparer pour les temps futurs est de mettre à profit chaque avantage du présent. Je ne pense pas que nos descendants nous blâmeront si nous faisons un usage précautionneux de notre charbon et si nous en retirons le meilleur. Nous devons utiliser nos ressources comme il se doit. Si nous les utilisons pour des besoins d'agrément ou à mauvais escient, nous aurons tout à être blâmés. Mais si nous les utilisons afin d'améliorer la condition de chacun, via l'éducation, la construction d'infrastructures d'assainissement, de bibliothèques et d'institutions variées permettant d'améliorer les aptitudes du plus grand nombre, alors je pense que nous ne serons jamais condamnés pour avoir utilisé notre charbon trop vite.
Thank you. Et c'est peut-être là que Jevons se situe en pionnier, cette pensée d'une responsabilité intergénérationnelle et novatrice. Alors Antoine Mismer, au nom de quoi les ressources doivent-elles être gérées dans un objectif de lutte contre le gaspillage selon Jevons? Et on rappelle là que ce n'est pas tant les ressources pour Jevons qui comptent en tant que telles, mais que les richesses qu'elles génèrent. Pourquoi c'est cela qui est au cœur de sa pensée et vraiment, pourquoi cette idée de dette aussi vis-à-vis des générations suivantes qui trouve une forme de cohérence et puis de formalisation dans sa pensée?
Oui, comme il part du principe, on l'a dit à l'instant, qu'il n'est pas possible en fait d'éviter l'épuisement du charbon, la question ça va être que devrions-nous faire de ce stock de charbon qui est à notre disposition? Les générations futures ne pourront pas utiliser ce charbon si on l'utilise nous. Et donc, comment faire? Et sa proposition, c'est en quelque sorte de dédommager les générations futures. C'est ce qu'on a entendu dans l'extrait. C'est-à-dire d'utiliser du mieux possible les richesses que l'on produit aujourd'hui pour faire en sorte que les générations futures, qui auront peut-être moins de ressources naturelles, auront à la place peut-être d'autres infrastructures, d'autres capitaux productifs permettant d'obtenir du bien-être. Alors, Ce qui, bien sûr, fait de Jevons un pionnier sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, ce sujet va être pris à bras-le-corps par les économistes un siècle plus tard, dans les années 1970, sur ce qu'on appelle le recyclage de la rente des ressources épuisables pour investir dans du capital productif. Alors, bien sûr, ça suppose forcément que sur une ressource donnée, un type de charbon donné, on puisse remplacer par d'autres sources de bien-être. Mais on imagine bien, là encore, que l'actualité est toute relative du propos de Jevons, parce que quand on parle d'écosystème, de stabilité du climat, on pourra avoir autant de machines que l'on veut, ça ne remplacera pas un climat stable ou des écosystèmes en bonne santé.
Nicolas Chignon, on vient d'évoquer l'idée d'un héritage en 1970. Dans quelle mesure Jevons reste écouté de son vivant? Dans quelle mesure ces idées qui viennent d'être évoquées trouvent un écho politique, théorique, en tout cas intellectuel? Est-ce que c'est un homme qui pèse dans ce milieu-là à cette époque-là? Et on parle là de 1865-1866.
Par rapport à ce qu'il met en avant dans la question
notamment,
charbonnière,
oui.
J'ai pas le sentiment que c'est un écho aussi à la hauteur de ce qu'il aurait souhaité.
Mais ça reste un économiste reconnu, ça reste un professeur en place, ça reste...
Il commence à être reconnu, oui, il commence
c'est
à être reconnu,
début.
Il a une position institutionnelle qui est quand même assez enviable, il commence à être reconnu. Après, Jevons ne cessera de se plaindre pendant toute sa carrière, non pas que je voudrais en renvoyer l'image d'un homme génial, mais ne cessera de se plaindre du relatif manque de reconnaissance de ses travaux, et je crois qu'on revient toujours à cette question de sa volonté... inaltérable de vraiment de contribuer de manière très significative au développement de l'économie politique en général.
Et à cette avancée intellectuelle, oui. Antoine Mismer, en termes de concrétisation politique...
Oui, je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'il a toujours été très ambitieux et donc toujours un peu frustré que les résultats ne soient pas à la hauteur de ses ambitions. Mais il y a quand même une concrétisation qui a eu lieu en 1866. C'est quand William Gladstone, qui était alors chancelier de l'échiquier, donc ministre des Finances au Royaume-Uni, en fait, a utilisé l'argument de Jevons pour justifier une politique fiscale de réduction de la dette publique. Parce que finalement, comment bien utiliser les ressources d'aujourd'hui pour les générations futures? Peut-être faudrait-il réduire le poids de la dette publique. Cette articulation entre dette écologique et dette publique est quelque chose qui a eu un impact relatif, qui n'était pas forcément anticipé par Jevons comme ceci, mais qui a existé.
Antoine Mismer, on a commencé à dire et à ranger un peu automatiquement Jevons parmi les marginalistes, on va y venir à l'instant. Avant ça, on pourrait se dire que cette pensée de la finitude des ressources aurait tendance à plutôt le ranger du côté des classiques. On a Malthus qui pense avant lui aussi cette idée de la finitude des ressources, en lien avec la question démographique, bien sûr. Est-ce qu'il faut dire qu'il y a eu une forme de retournement, ou est-ce qu'on ne peut tout de même pas ranger Jevons, même ce jeune Jevons, on va dire, du côté des classiques?
L'ouvrage de Cold Question est en partie quand même un ouvrage à teneur classique. Il y a des différences avec Malthus qui sont assez significatives, mais c'est un peu un ouvrage classique pour se faire connaître avant de vraiment pouvoir se consacrer à ce qui l'intéresse le plus, la théorie marginaliste.
Et c'est à cette théorie marginaliste que nous allons venir désormais. Une magnifique transition, il faut le souligner. Et on va voir effectivement que les idées de Jevons ont infusé bien plus loin dans le temps encore, jusqu'à trouver un écho aujourd'hui encore. Il y a une forme d'héritage de Jevons, mais pour l'heure, il faut poursuivre notre route avec lui, puisqu'il n'a pas fini de faire parler de lui et continue de marquer l'histoire de la pensée économique. On en parle dans quelques instants. Un extrait de la première symphonie d'Anton Bruckner, composée en 1865, soit l'année de l'apparition, on s'en souvient bien sûr, de la question du charbon, de William Stanley Jevons, penseur de l'économie, auquel nous consacrons notre portrait du jour dans Entendez-vous l'écho, et vous êtes bien à l'écoute de France Culture. Et pour poursuivre le parcours de ce théoricien majeur de l'histoire de la pensée économique, nous sommes toujours en compagnie de l'économiste Antoine Mismer, chargé de recherche au CNRS, et de Nicolas Chéniaud, professeur à l'université Lumière Lyon 2, où vous enseignez entre autres l'histoire de l'analyse économique. Alors nous nous étions quittés sur un Jevons penseur de la finitude des ressources dans les années 1860, relativement écouté par ses pairs et par une partie de la classe politique, on l'a vu, qui cherche à assurer avant tout la productivité et le rayonnement industriel de la Grande-Bretagne. À l'orée des années 1870, Jevons prend un nouveau chemin qui se concrétise avec l'apparition en 1871 de sa théorie de l'économie politique, dont je vous propose d'écouter un extrait.
Des réflexions et des recherches répétées m'ont conduite à cette opinion quelque peu nouvelle que la valeur dépend entièrement de l'utilité. L'opinion prédominante met dans le travail plutôt que dans l'utilité l'origine de la valeur. Et elle va même quelquefois jusqu'à énoncer nettement que le travail est la cause de la valeur. Je montre, au contraire, que nous n'avons qu'à poursuivre avec soin les lois naturelles de variation de l'utilité considérée comme dépendant de la quantité de marchandises en notre possession, pour arriver à une théorie satisfaisante de l'échange, de laquelle les lois ordinaires de l'offre et de la demande sont une conséquence nécessaire. Cette théorie est en parfaite harmonie avec les faits. Et toutes les fois qu'il y a une raison apparente de croire que le travail est la cause de la valeur, elle nous fournit une explication de cette raison. Il se trouve souvent que le travail détermine la valeur, mais seulement d'une manière indirecte, en faisant varier les degrés d'utilité de la marchandise par une augmentation de l'offre.
Nicolas Chéniaud, nous avons dit que cette théorie de l'économie politique est une forme de basculement théorique, toute proportion gardée, bien sûr, parce qu'il faut rendre hommage à qui de droit. Jevons parvient, et vous nous l'avez expliqué en nous parlant des cafés que vous avez pris avant de venir ici, il parvient à résoudre un paradoxe qui taraudait les économistes depuis Adam Smith, au moins celui de l'eau et du diamant, qui est très connu. Il y parvient parce qu'il, et là c'est le point sur lequel je voulais insister, il parvient à conjuguer deux approches qui peuvent à première vue sembler contradictoires. Il y a une approche très mathématique, on a vu que ça a beaucoup compté dans sa formation notamment, et une approche qui se fonde beaucoup plus sur le comportement des individus avec un aspect très psychologique. Comment Jevons parvient à conjuguer ces deux aspects-là pour former une théorie, un ensemble cohérent ?
Alors, c'est un sujet très important chez Jevons. Alors, il parvient assez facilement, sans doute, de son point de vue, parce que ça lui semble assez naturel. Je vais m'en expliquer. Si on reprend le fil de là où on en était resté s'agissant de la gestation de sa théorie marginaliste dont on a dit tout à l'heure qu'elle était déjà présente pour son architecture principale en 1862, j'y reviens très très rapidement. Le message de Jevons, c'est assez simple, c'est l'économie doit être mathématique et consister en un calcul des peines et des plaisirs. Bon, voilà, on en est là. Un peu plus tard, au fur et à mesure de la maturation de cette théorie, la conviction suivante s'ancre dans l'esprit de Jevons, c'est que si on veut faire ça rigoureusement, il faut remonter à ce qu'il appelle les sources de l'action humaine, c'est-à-dire remonter le plus loin possible dans ce qui nous permet de comprendre ce fameux mobile de comportement humain qui est la recherche des peines et des plaisirs, et surtout comprendre les lois de variation de ces peines et des plaisirs, puisque on l'a évoqué un peu plus tôt dans cette émission, ce que j'ai essayé d'expliquer avec mon histoire plus ou moins adroite des cafés, c'est que c'est les variations de vos quantités de plaisir que vous ressentez à la consommation des biens qui vont déterminer votre demande et, partant par votre conséquence, le prix des biens. Bien. Et donc, Jevons part sur une piste qui n'est pas le seul à emprunter. Le seul disciple qu'il aura, qui s'appelle Francis Edgeworth, économiste très intéressant par ailleurs, fera la même chose. Jevons part sur la piste suivante, qui consiste à essayer de rechercher du côté de la psychologie expérimentale, de la psychophysiologie, des bases rationnelles de cette loi de variation des plaisirs. Alors, il le fera de manière plus ou moins adroite, mais il s'inspire notamment d'un auteur qui écrit un livre dans les années 1850, qui s'appelle Jennings, qui s'appelle « Les éléments naturels de l'économie politique », traduction de mémoire, où Jennings met en avant une loi comme ça, qu'il présente comme psychophysiologique, et dont il dit que cette loi nous indique que nos sensations, notamment nos sensations de plaisir, ne progressent pas toujours de manière aussi importante que nos consommations, mais nos sensations de plaisir augmentent de moins en moins à mesure que nous consommons. Et vraiment, Jevons a le sentiment qu'il a une base rationnelle, et surtout, c'est mathématisable, parce que, sans rentrer trop dans les détails, cette loi se représente très facilement dans un graphique où on montre en abscisse eh bien, la consommation qu'on a, en ordonnée la quantité de plaisir, et il y a une jolie courbe qui va nous illustrer cette loi mathématique de variation des plaisirs. Donc il n'y a pas vraiment d'incohérence entre avoir une approche psycho-économique et mathématiser l'économie, puisque, en espèce, la loi psycho-économique qu'il prend fait l'objet d'un traitement mathématique.
Vous avez parlé de Richard Jennings, vous avez parlé de d'autres penseurs et qu'il faut également mentionner. On pourrait mentionner les Jules Dupuy, Hermann Heinrich Gossen ou encore Walras lui-même, qui a été son contemporain et qui a joué un gros rôle dans la diffusion Absolument. De son œuvre aussi. C'est de ce point de vue-là qu'il est peut-être compliqué de parler de révolution marginaliste incarnée par Jevons, on le comprend, mais Jevons a quand même l'avantage d'avoir proposé un système novateur. En fait, il pense en système, là où tous les penseurs qu'on vient d'évoquer avancent pas à pas. Lui essaye, encore une fois, de créer un fondement théorique plus global.
C'est exactement ça. En fait, si vous désarticulez la théorie de Jevons et que vous recherchez des précurseurs pour chacun petit bout de sa théorie, vous allez, dans la plupart des cas, trouver des précurseurs. C'est aussi simple que ça. Dans l'usage des mathématiques en économie, la loi de l'utilité marginale, on va systématiquement trouver des précurseurs. D'ailleurs, un certain nombre de collègues l'ont abondamment montré depuis 30-40 ans même. C'est un sujet qui est devenu en réalité très commun. En revanche, Jevons, c'est à mon sens le premier avant Walras. Enfin, à le publier, parce que Walras a déjà aussi est déjà parvenu à une maturité assez importante de sa propre théorie au moment où, en 1871, Jevons publie son ouvrage. Mais Walras mettra du temps à écrire le sien propre, ce qui fait qu'il aura 3 ans de retard, et ça sera l'objet, ça part aussi d'une grande frustration.
On imagine.
Mais évidemment, il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve de manière éparse dans un certain nombre d'ouvrages du 19e siècle, mais Jevons est vraiment le premier à les articuler dans un système théorique qui est cohérent et qui a la force argumentaire suffisante pour espérer pouvoir mettre à mal la théorie de la valeur des classiques.
Et c'est important, cette idée de vouloir mettre à mal la théorie de la valeur des classiques. On a commencé à l'évoquer, il y a une dimension très critique aussi chez Jevons. Je le citais dans mon introduction, mais il y a cette idée de charger la barque, on va dire, de Ricardo et de John Stuart Mill. C'est d'ailleurs une stratégie qui, je crois, ne plaît pas beaucoup à Walras en tant que lecteur de Jevons. Il le dit, ne pas en vouloir à Jevons, c'est déjà beaucoup pour un Anglais d'être convaincu que l'économie politique anglaise était en ruine. Il se venge en injuriant Ricardo de ses erreurs. Est-ce qu'on peut retrouver là un lien peut-être aussi entre cette volonté de critiquer les classiques et cette idée de garantir aussi on va dire une certaine victoire, une certaine prestance aussi de la Grande-Bretagne? C'est aussi dans cette visée-là que Jevons tente d'établir ses théories.
Alors, en fait, la citation que vous donnez de Walras, c'est une de mes préférées parce qu'on l'a trouvée sur
c'est une note inédite,
une archive au bout d'un carton d'annonce de décès que Walras avait. Un collègue qui est spécialiste du décryptage de l'écriture de Walras est parvenu à le déchiffrer. Bon, c'était une petite histoire. Je crois qu'on est dans un jeu assez complexe. C'est-à-dire que d'un côté, Jevons, lui, a vraiment conscience que pour imposer sa théorie, il faut qu'il fasse preuve de véhémence par rapport à l'économie politique classique, parce que c'était sans doute la seule stratégie viable de dire une bonne fois pour toutes que, à la fois Ricardo et Mill s'étaient engagés dans une voie qui était une impasse, une fausse théorie de la valeur. Mais Walras, de son côté, a aussi un comportement relativement clair qui consiste aussi à critiquer Jevons parce que lui-même est dans une quête à propos de la paternité de la révolution marginaliste. On est dans une période des années 1870 où 3 auteurs simultanément produisent les mêmes idées, donc les lois de l'utilité, sans se connaître. Alors l'un restera totalement à l'écart, Menger, parce que ni Jevons ni Walras n'ont reconnaissance, en tout cas tardivement. Jevons mourra d'ailleurs sans connaître son existence. Walras ne le connaîtra qu'en 83, je crois. Et la querelle de la paternité de la révolution marginaliste se conjugue à celle de la querelle entre le marginalisme et l'économie politique classique. Donc, je ne sais pas si je suis d'une grande clarté, mais tous les propos des auteurs à cette époque-là doivent vraiment être analysés à l'aune de ce contexte très particulier.
Ce qui est intéressant, Nicolas Chenieff, c'est que vous avez parlé d'une forme de radicalité réalité, en tout cas, dont Jevons a conscience pour affirmer ses propos. Et en même temps, vous dites aussi, dans cette fameuse préface de cette théorie de l'économie politique, vous dites que Jevons a conscience qu'il s'agit là d'une esquisse élémentaire, de principes élémentaires. Il y a une forme de modestie aussi. Il ne propose pas de proposer une vue systématique de l'économie. Et c'est là où il faut peut-être préciser aux auditeurs, aux auditrices, que Jevons n'a pas non plus une vue macroéconomique comme d'autres ont pu l'avoir avant lui.
Alors, une manière de l'expliquer... On touche ici aussi la question de la postérité de Jevons, dont on pourrait dire quelques mots peut-être très rapidement avant la fin. En fait, Jevons pose, pour aller vite, les bases élémentaires de ce qui est aujourd'hui le modèle de comportement individuel qu'on utilise en économie pour comprendre le fonctionnement des marchés. Les individus cherchent la plus grande utilité possible. Ça permet à nous de comprendre, économistes, comment ils font varier leurs demandes en fonction des prix. Et ces lois, on peut les utiliser après pour comprendre le fonctionnement des marchés. Puisque si tous les individus se comportent de la manière avec laquelle Jevons le dit, on comprend comment les individus font varier leur consommation, on agrège tout ça en calculant des demandes globales, et sur chaque marché, on est en mesure de confronter ça à l'offre et de comprendre comment se fixent les prix. Bon. Jevons s'arrête à peu près là. En réalité, dans son ouvrage, très formellement, la question est un peu technique, mais le diable est dans les détails, ne formule pas, n'écrit pas de fonction de demande dans son ouvrage.
Oui, vous le dites que c'est assez étonnant d'ailleurs de sa part, dans le sens où c'est absolument un mathématicien aussi, qu'on ne trouve pas de trace.
Le grand tour de force de Walras, qui n'est pas l'objet de l'émission, mais le fantôme de Walras a toujours plané sur la tête de Jevons, même après sa mort, je vais m'en expliquer. Le grand tour de force de Walras, c'est d'être allé plus loin. C'est que Walras a intégré cette théorie élémentaire dans ce qu'on appelle une théorie de l'équilibre général, dont vous avez sans doute traité dans une émission il y a quelques temps.
Nous l'avons fait, je vous le confirme.
Voilà. Et donc, quelque part, la théorie de Walras est beaucoup plus complète. Donc, Jevons a posé des briques élémentaires, mais il ne faut pas oublier néanmoins que lorsqu'on regarde le contenu d'un cours de microéconomie en premier cycle d'économie en première année, les éléments fondamentaux qu'on met en avant pour comprendre la logique la plus rudimentaire du choix individuel en économie, c'est quand même ce qu'il y a chez Jevons. Donc le nom n'est pas prononcé, mais la figure est toujours en arrière-fond, tel un fantôme qui plane au-dessus de nos têtes, mais dont l'image a été un peu écrasée par le poids qu'a pris la théorie walrasienne au XXe siècle.
Et peut-être à plus forte raison dans des cours d'économie français, sachant que Walras aussi avait
il y a son
français, peut-être qu'il y a,
ça,
il y a un peu de ça.
Comme j'aime bien la contradiction, je parle plus souvent de Jevons.
très bien. Si l'on reprend le fil de son parcours biographique, en 1872, William Stanley Jevons donc, est élu à la Royal Society de Londres. Il tombe malade, il démissionne, il accepte ensuite un poste de professeur d'économie politique à l'University College de Londres. En 1880, il quitte cet établissement pour se consacrer à ses recherches en économie. Il meurt malheureusement l'année suivante en se noyant accidentellement. Il laisse derrière lui un fils, Antoine Mismer, auquel vous avez consacré une partie de vos recherches également. C'est une façon d'aborder aussi l'héritage de Jevons. Comment Herbert, et non William Stanley Jevons, se saisit-il des travaux de son père? Sur quel point va-t-il le reprendre et sur quels autres, au contraire, il va chercher à s'en distinguer?
Alors, Herbert Jevons a joué un rôle, en fait son père meurt quand il est encore très jeune, mais il va jouer un rôle d'une part dans la valorisation du travail de son père, en participant à la réédition de certains de ses travaux. Et puis il va lui-même être économiste, en publiant un traité d'économie au tout début du XXe siècle, et puis ensuite en travaillant lui aussi sur le charbon, très très peu de temps après être arrivé en Inde, où il va être un expert important. Alors, le fils Jevons, beaucoup moins connu que le père, en fait, en tout cas comme théoricien, il n'est pas du tout renommé spécialement, mais il va avoir un rôle un peu d'expert économique, en particulier en Inde, pendant assez longtemps. Mmh. Et là, Lucie Rondeau-Dunoyer est en train de préparer une thèse sur ces sujets-là. Et donc, il va avoir un devenir d'économiste. Être intéressé par des sujets proches, c'est-à-dire si vous regardez son traité d'économie de 1905, c'est quand même un traité marginaliste. Et si vous regardez son livre sur le charbon de 1915, ça fait écho aux travaux de son père, mais avec des contributions bien moindres que celles de son père.
De ce point de vue-là, il y a la question très importante de la diffusion, on a commencé à le dire. C'est potentiellement plus le fils de Jevons qui a participé à cette diffusion. Est-ce que d'autres ont repris le flambeau après lui? On vient d'évoquer une forme d'oubli, on va dire, ou en tout cas de mise à distance des travaux de Jevons. Antoine Mismer, est-ce que après Herbert Jevons, d'autres s'en sont occupés de ce travail-là?
Déjà, même un peu avant Herbert, il y a eu la femme de Jevons qui a joué un rôle très très important tout de suite après sa mort. Et puis après Herbert Jevons, là, on est sur, comme ça a été dit par Nicolas Chéniaud, l'histoire du marginalisme au XXe siècle va prendre des trajectoires un petit peu différentes. Mais Jevons sera peu à peu, entre, pas oublié, mais en tout cas moins mis au centre de l'expertise.
Eh bien, un grand merci à tous les deux, Nicolas Chaignot et Antoine Mismer, d'avoir participé à cette émission. Toutes les références de vos ouvrages seront sur la page d'Entendez-vous l'écho sur France Culture, une page où vous pouvez aussi retrouver toutes les émissions qui ont été diffusées jusqu'ici.
Merci.
Merci.